La guerre froide s'est intensifiée du jour au lendemain. Aux premières heures du 13 juin, Israël a lancé des frappes préventives contre l'Iran. De multiples explosions ont été entendues à Téhéran et des images en ligne montrent des explosions illuminant la capitale. Mais l'incendie qui a commencé dans la ville ne s'est pas arrêté là. D'autres explosions se sont produites à Isfahan, Tabriz, Kermanshah, Hamadan, Qa et Piranha, des villes qui abritent des sites nucléaires, militaires ou stratégiques. Des frappes distinctes ont également touché le site nucléaire de Natanz, le réacteur à eau lourde d'Arak et le complexe militaire de Parchin. Les images satellites, par exemple, montrent des dégâts considérables mais probablement superficiels à Natanz. Quoi qu'il en soit, les premières 24 heures ont été un véritable désastre pour les Iraniens. Les avions israéliens survolent presque sans contestation l'espace aérien iranien. Les agents du Mossad se déplacent librement, lançant des drones et des missiles anti-chars guidés sur des systèmes iraniens clés. Le tout pendant que le Hezbollah reste sur la touche. Plusieurs scientifiques nucléaires de haut rang et chefs militaires de haut rang ont déjà été tués. Comme cela devait arriver, l'Iran a réagi avec force et a lancé des vagues de munitions rôdeuses et de missiles balistiques sur Israël. La plupart d'entre eux ont été interceptés dans les airs, mais certains ont réussi à passer. Tel Aviv a été touché à plusieurs reprises et des dégâts importants ont été signalés au centre de commandement militaire central d'Israël. Ce que nous observons ne ressemble à rien de ce que la région a connu auparavant. La puissance de feu déchaînée fait passer les roquettes du Hezbollah et du Hamas pour des jouets en comparaison. Pendant ce temps, Netanyahou a exhorté les citoyens israéliens à se préparer à un conflit prolongé. Et c'est ainsi que cela commence. Lorsque les sirènes remplacent les discours, la guerre n'arrive plus. Elle est arrivée. Immédiatement après, l'Iran a lancé plus de 100 drones vers Israël et a promis de nouvelles représailles. De son côté, l'Amérique a choisi de ne pas intervenir. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio insiste sur le fait que les États-Unis n'ont joué aucun rôle dans les attaques, tandis que le président Trump exhorte l'Iran à conclure un accord ou à faire face à des attaques encore plus brutales. Il pourrait bien s'agir d'une tactique de négociation du bon flic et du mauvais flic. Environ 260 médias ont couvert cette histoire, la plupart d'entre eux penchant à droite. C'est aussi comme ça que les gouvernements négocient. Lorsqu'ils essaient de parler sans dire les choses directement, ils utilisent les médias. Mais même ainsi, parvenir à un accord maintenant sera difficile. Parmi les victimes figure Ali Chamani, un proche confident du guide suprême et négociateur en chef du nucléaire iranien. Il y a donc beaucoup à reconstituer pour comprendre ce qui va suivre. J'utilise Ground News pour relier les points, car cela me permet de consulter des sources locales et régionales. Je pense vraiment que c'est la meilleure façon de comprendre cette région délicate. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cela, c'est pourquoi j'ai demandé à Ground News de sponsoriser cette vidéo. Je consulte principalement la page des Angles Morts où ils partagent de nombreuses histoires intéressantes que d'autres médias oublient souvent en raison de reportages biaisés. Rendez-vous sur Ground News News, Caspian ou téléchargez l'application mobile et entrez le code promotionnel Caspian pour économiser 40% sur le forfait Vantage. De plus, en vous abonnant, vous soutenez directement ma chaîne. Merci, Ground News. Le lien est ci-dessous. À ce jour, l'ampleur réelle de l'attaque israélienne contre l'Iran est encore inconnue. Les premières frappes semblent avoir visé des radars, des défenses aériennes, des avions et des tours de contrôle, ce qui ouvre la voie à des attaques de suivi sur des sites secondaires. L'attention d'Israël va désormais se tourner vers les cibles secondaires de nature stratégique et économique, telles que les ports, les raffineries et les usines de missiles. L'armée israélienne l'a dit lorsqu'elle a décrit l'opération comme la première étape, signalant que d'autres attaques pourraient suivre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais même si la prochaine vague d'attaques israéliennes est un succès tactique, le démantèlement complet du programme nucléaire iranien nécessiterait une implication directe des États-Unis. Sans l'implication des États-Unis, Israël ne peut pas le faire. Au mieux, elle pourrait retarder les progrès de l'Iran d'un à deux ans. Au pire, les frappes pourraient se retourner contre elle, incitant l'Iran à assembler rapidement un engin nucléaire rudimentaire pour dissuader de futures attaques. Bien qu'Israël affirme que son objectif est de mettre fin au programme nucléaire iranien et de l'empêcher de fabriquer une bombe nucléaire, ses actions suggèrent un objectif plus profond, un changement de régime. Toutes les attaques israéliennes ont jusqu'à présent visé des responsables du CGRI tout en évitant les dirigeants des forces armées régulières iraniennes, ce qui pourrait être une tentative calculée de diviser pour mieux régner. Voyez-vous, les gardiens de la révolution et l'armée régulière opèrent souvent en désaccord avec le CGRI qui domine à la fois les sphères politiques et économiques. Ainsi, en dégradant le CGRI, Israël pourrait tenter de provoquer des frictions internes, voire encourager l'armée régulière à se retourner contre les gardiens de la révolution dans une tentative de prise de pouvoir. Fait révélateur, la campagne israélienne s'appelle Opération Lion Montant, ce qui est probablement un clin d'œil au drapeau iranien d'avant la révolution et suggère qu'un changement de régime pourrait être l'objectif ultime. Que ce pari soit payant est une toute autre question. De même, la stratégie de Tron est également un changement de régime, mais par des moyens plus légaux. Les Iraniens savent qu'ils ne peuvent pas faire changer d'avis Netanyahou, mais ils pourraient bien être en mesure de faire tomber son gouvernement en augmentant la pression intérieure et en déclenchant un vote de défiance. Pour ce faire, les Iraniens devront infliger un maximum de dégâts à Israël, mais en se concentrant sur les infrastructures, les cibles militaires et les dirigeants, tout en évitant autant que possible les sites civils, ce qui pourrait s'avérer difficile en pratique. Les Iraniens voudront donc lancer des vagues de missiles sur Israël jour après jour dans l'espoir que cela puisse conduire à un vote de défiance. Ce serait une victoire politique qui aiderait Tron à sauver la face et à renforcer sa position dans les futures négociations. Mais encore une fois, rien ne garantit que cela fonctionnerait. Un changement de régime est moins une stratégie qu'un coup de dé. Le comportement de l'Iran et d'Israël dans les semaines à venir dépendra d'un ensemble de facteurs militaires, politiques, régionaux et stratégiques. Même un léger changement d'une variable, comme une déclaration de soutien des États-Unis, pourrait déclencher des effets d'entraînement qui modifieraient radicalement leurs prochaines actions. Dans un moment aussi instable, de faibles représailles de l'Iran ne dissuaderont pas Israël, mais de fortes représailles risquent d'entraîner l'Amérique dans la guerre. C'est précisément ce qu'Israël pourrait tenter de provoquer en intensifiant ses attaques dans l'espoir d'attirer l'Amérique. En revanche, l'Iran cherchera probablement à répondre d'une manière qui montre sa force et rétablit la dissuasion tout en évitant un conflit plus large. Ce que les Iraniens voudront probablement, ce sont des frappes qui préservent une porte de sortie pour la désescalade, par exemple en donnant un avertissement préalable aux États-Unis et aux pays de la région. Ils ont adopté une approche similaire lors de l'opération Troupes Promises en avril 2024, lorsqu'ils ont lancé une attaque de drones et de missiles à grande échelle contre Israël, mais ont évité de déclencher un conflit plus large. Donc, à ce stade, c'est une question de maintien ou d'escalade. Israël a peut-être repoussé une grande partie des premières vagues d'attaques de l'Iran, mais son stock d'intercepteurs ne tiendra pas éternellement. L'Iran peut essayer d'affaiblir les défenses israéliennes, tirer suffisamment de missiles sur suffisamment de cibles, et certains passeront inévitablement. Cependant, l'Iran devra faire face à son propre affaiblissement. Les drones sont nombreux, mais relativement faciles à abattre. Les missiles balistiques sont bien plus destructeurs et plus difficiles à intercepter, mais ils ne sont pas faciles à remplacer. On estime que l'Iran possède un arsenal d'environ 3000 missiles balistiques. Bien que tous n'aient pas la portée nécessaire pour atteindre Israël, suffisamment d'entre eux pourraient percer les défenses aériennes israéliennes et américaines pour infliger de graves dommages et forcer la main de Netanyahou à agir politiquement. Donc, encore une fois, tout se résume à une stratégie de maintien plutôt que d'escalade. Par le passé, l'Iran ne se serait pas reposé uniquement sur ses missiles. Sa première ligne de défense était son réseau de mandataires arabes, en particulier le Hezbollah. Mais après un an de combat avec Israël, le Hezbollah est désormais beaucoup plus faible. Nombre de ses dirigeants ont été tués et une grande partie de sa hiérarchie a été infiltrée par des agents du Mossad. Le Hezbollah dispose toujours d'un important arsenal de missiles et de roquettes, mais les utiliser maintenant serait politiquement risqué. Le gouvernement libanais a du mal à se reconstruire et a averti le Hezbollah de ne pas entraîner le pays dans une nouvelle guerre au nom de l'Iran. Le Hezbollah reste donc à l'écart de cette guerre. Alternativement, pour rétablir la dissuasion, l'Iran pourrait employer ses intermédiaires pour lancer une série d'attaques contre les forces américaines stationnées en Jordanie, en Syrie et en Irak. Dans le même temps, les Houthis au Yémen pourraient lancer des missiles sur Israël et éventuellement cibler les navires de guerre américains restant dans la mer Rouge. Cependant, ce serait une décision terriblement risquée. Attaquer directement les actifs américains pourrait déclencher des représailles contre les dirigeants iraniens. Quelque chose de similaire à l'assassinat en janvier 2020 du commandant de la force de Qud, Qassim Soleimani. Le résultat final pourrait voir l'armée de l'air américaine faire encore plus de dégâts que les frappes aériennes israéliennes. Une autre façon pour l'Iran d'établir la dissuasion, et moins attendue, serait de frapper les alliés des États-Unis dans la région du Golfe. Par exemple, l'Iran pourrait utiliser ses intermédiaires pour attaquer des installations pétrolières en Arabie Saoudite comme il l'a fait en 2019 ou frapper des cibles aux Émirats Arabes Unis comme il l'a fait en 2022. Attaquer les infrastructures pétrolières et gazières dans la région du Golfe, y compris les navires traversant le détroit d'Ormuz, entraînerait presque certainement une flambée des prix du pétrole. Dans un tel scénario, les dirigeants du Golfe qui ont promis des centaines de milliards d'investissements aux États-Unis pousseraient probablement Trump à régner sur Israël et à mettre fin à ses attaques contre l'Iran. Rien ne garantit que cela fonctionnerait, mais parfois, le chemin le plus court vers la victoire passe par l'arrière-cour de quelqu'un d'autre. Cela dit, toute attaque iranienne contre les États arabes du Golfe, bien que possible, mettrait probablement fin aux relations diplomatiques que l'Iran s'est efforcé de nouer avec ces pays ces dernières années. Ainsi, toute forme de représailles comporte un certain risque de retour de bâton. Pourtant, la forme de dissuasion la plus forte pour l'Iran serait peut-être de procéder à un essai nucléaire. Cela signalerait à Israël et aux États-Unis que l'Iran ne bluffe plus sur ses ambitions nucléaires, mais cela provoquerait également l'indignation internationale, déclencherait de nouvelles sanctions et aggraverait l'isolement de l'Iran. Néanmoins, si le gouvernement iranien estime que sa survie est en jeu, le guide suprême pourrait décider que le jeu en vaut la chandelle. Un essai nucléaire obligerait les Israéliens et les Américains à évaluer le risque de transformer un conflit conventionnel en conflit nucléaire. Au minimum, Trump pourrait opter pour une réponse non cinétique, qui signale une intention nucléaire, mais qui la maintient suffisamment ambiguë pour éviter une escalade immédiate. Les responsables iraniens ont depuis longtemps prévenu qu'ils quitteraient le traité de non-prolifération si leur programme nucléaire était attaqué militairement. Ce moment pourrait désormais être proche. Globalement, le déroulement des actions israéliennes et iraniennes dans les semaines à venir dépendra de l'ampleur et de l'intensité des actions futures de chaque camp. Plus les attaques se prolongent et plus elles infligent de dégâts, plus la fenêtre de désescalade se réduit. À chaque frappe et contre-attaque, il devient de plus en plus difficile de contrôler la suite. Car malgré tous les efforts, les frappes de précision se terminent rarement par des résultats précis. J'ai été votre hôte, Chiron de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, cliquer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci de votre temps, etc.